L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Marbou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème, la parabole du Samaritain. Et nous avons encore une fois le serviteur de Dieu, Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous tous qui venez de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse.
Merci pour ce temps de disponibilité, de sacrifice. Que Dieu te bénisse encore et encore, te rende au centuple toutes ces bénédictions que tu nous donnes au travers de ce thème.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, nous voici devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ pour encore entendre ta parole sur la parabole du Samaritain. Père, dispose nos cœurs à comprendre. Oins ton serviteur Jonathan. Utilise-le avec puissance, Seigneur. Donne-lui des révélations, car tu es un Dieu illimité. Et je crois du plus profond de mon cœur que tu peux nous dire des choses que personne n'a encore entendues sur cette parabole.
Amen.
Bénis les différents auditeurs, qu'ils acceptent ta parole, qu'ils changent de vie, qu'ils soient réveillés, Seigneur. Que ceux qui ont quitté Jérusalem pour Jéricho fassent le chemin inverse. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
La parabole du Samaritain. Dans Luc 10, verset 30, Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. » Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la parabole du Samaritain? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour aujourd'hui?
Nous continuons toujours sur cette merveilleuse parabole où nous voyons cet homme qui était à Jérusalem et qui descend. Et en descendant, il a été attaqué par des brigands. Et là, nous comprenons bien, on peut se dire, mais cet homme, qu'est-ce qui lui a pris de laisser Jérusalem, la maison de paix, pour se diriger vers l'endroit le plus bas de toute la terre sur le plan géographique, qui est Jéricho. Et voilà ce qui lui est arrivé. Il devait rester là, à Jérusalem, parce que là où Dieu nous protège. Ceci m'amène à voir ce verset de... Du psaume, ceux qui ne le savent pas, ce ne sont pas des livres qui ont... David a écrit les psaumes, mais les autres ont été également écrits par d'autres, comme le psaume 91, que je voudrais lire, ce n'est pas le psaume 91, ça a été écrit par Moïse.
91 ou bien 91.
Le psaume, voilà. Ça a été écrit par Moïse, il y a des psaumes que Salomon a écrits, toujours dans les psaumes, il y a d'autres qui ont écrit. Ce n'est pas que David. Mais regardez ce que Moïse dit au verset 1 du psaume 91 ou 91, comme tu dis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est très important. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. En fait, être sous l'abri du Très-Haut, c'est ça, rester à Jérusalem. Celui qui est à Jérusalem, en fait, c'est Dieu lui-même qui le protège. Et je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. En fait, ici, je vois Moïse qui nous révèle clairement que, étant chrétien, de même qu'un chasseur peut mettre des filets pour attraper un oiseau, eh bien, l'ennemi fait aussi la même chose. Mais celui qui est sous l'abri du Très-Haut, il est épargné. Dieu le délivre. Pourquoi? Parce que cet homme choisit de rester à Jérusalem. Ça, c'est très important. Jérusalem, c'est la maison de paix. Et lorsqu'on est dans Jérusalem, Dieu nous protège des filets, des pestes et de ses ravages. Les pestes, en fait, on voit les maladies. C'est vrai qu'il y a des maladies qui nous surviennent parce que tu as eu des microbes, tu as eu ceci, cela. Mais on doit admettre que l'ennemi aussi peut projeter chez l'un ou l'autre une certaine maladie, venant soit des puissances occultes, de la sorcellerie ou de quoi que vous puissiez dire. Mais au moins, ce qui est vrai, Dieu nous protège. Et nous protège même alors qu'on ne sait pas ce qui se passe, ce qui se trame dans l'obscurité. C'est vraiment, ça me rappelle ce verset aussi qui me dit, qui nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Mais il faut être à Jérusalem pour être gardé. Ça, c'est vraiment important. Regardons encore ce verset, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. En fait, ce psaume ne parle que de la protection de Dieu. Pour ceux qui sont à Jérusalem, nous sommes protégés. Nous sommes sous les ailes d'un oiseau, si je peux le dire ainsi. Le Seigneur, la poule, je voulais dire, a l'habitude de mettre ses poussins sous lui quand il pleut, et ses poussins sont protégés. C'est lui, en fait, lui, la poule qui accepte de se mouiller, mais les poussins, eux, ils sont protégés.
Les enfants sont protégés.
Voilà, c'est ça ce que Dieu fait de nous. Il sait que vous êtes vulnérables, parce que vraiment, un poussin, il est vulnérable vis-à-vis des intempéries. Il sait que nous sommes vulnérables, mais protégés par lui, nous sommes vraiment sous l'abri et nous n'avons rien à craindre. C'est ce que dit le verset 5. Tu ne craindras ni la terreur, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça doit nous rassurer et nous amener à rester à Jérusalem pour ne pas craindre les terreurs de la nuit. La nuit, ça peut être nuit, ça c'est vrai. La nuit comme obscurité. Mais la nuit aussi, c'est ce monde qui est dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans l'obscurité. Il y a plein de mal qui s'effectue dans notre société. Mais dans cette obscurité du monde, eh bien, nous n'allons rien craindre. Parce qu'il est la lumière du monde. Parce qu'il nous a introduits dans sa maison. Et cette maison, c'est l'Église. Cette maison, c'est Jérusalem. Et lorsque nous sommes à Jérusalem, nous ne craindrons pas ces choses. Hein? Je me rappelle de cet exemple qu'on nous donnait souvent, moi, quand je suivais les affermissements. C'est comme un cancrela qui entre dans une bouteille.
Tout à fait.
Et quand un cancrela entre...
La poule va faire comme grimace, ouais. Le cancrela est sous et protégé.
Oui.
Mais si le cancrela sort...
Ah, là, c'est dangereux. En fait, si le cancrela sort, c'est encore comme ce qu'on voit dans les documentaires. Un lion pour attaquer un antilope qui est dans un troupeau. Il isole juste l'antilope.
D'accord.
Il ne faudrait pas s'isoler. Rester simplement à l'intérieur, dans le groupe. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne vas pas les craindre. Toutes les flèches de l'ennemi ne vont pas t'atteindre parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire, tu es à Jérusalem. Si cet homme n'avait pas quitté Jérusalem, il ne serait pas atteint par les brigands. Les brigands, ce sont toutes ces flèches. Ce sont toutes ces terreurs de la nuit. Hein? Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne vas pas craindre. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. En fait, toutes ces promesses sont attribuées à qui ? À cette personne qui est sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire à cette personne qui reste à Jérusalem. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Et c'est vrai. Car tu es mon refuge. Ça me fait penser à Mardoché. Il avait un ennemi qui voulait lui faire du mal. Mais finalement, il a vu, à un moment donné de sa vie, cet ennemi tomber dans son propre piège. Cet ennemi qu'on appelait Aman, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé d'honorer son ennemi. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait planifié, c'était retourner contre lui. Il a vu. Dieu, il sait confondre nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous choisissons de rester à Jérusalem, c'est-à-dire de choisir de rester dans sa maison.
Ceci me fait penser un peu au psaume 23.
Oui.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Oui.
Tant que la brebis est dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, cette bergerie, c'est l'image de Jérusalem, tant qu'elle est là, elle ne manquera de rien, ni de protection, ni de nourriture, ni de vêtements, ni de vie, ni de santé. Mais dès l'instant où cette brebis quitte la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, en fait, elle est exposée aux brigands, aux loups ravisseurs, au lion rugissant qui cherche à dévorer la brebis du troupeau qui s'est isolée par erreur.
Oui. Et c'est comme ça. Je suis dans le psaume 91. Car tu es mon refuge, au verset 9. Ô Éternel, regardez la phrase qui suit. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. La tente ici, c'est notre corps. Notre corps, c'est une tente. Mais lorsque nous faisons de l'Éternel notre lieu de retraite, ben nous sommes épargnés.
Tout à fait.
Nous sommes protégés. Et si je retourne dans le psaume 23, comme tu l'as dit, David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il fait voir ces choses? Il fait voir ces choses pour montrer que oui, étant chrétien, on peut traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais on ne craint pas.
On ne fait que traverser.
Oui, ça c'est important.
On ne part pas demeurer, on ne part pas y habiter, on ne fait qu'une traversée.
Oui, qui a dit qu'on ne peut pas traverser la vallée de l'ombre de la mort? On va la traverser, mais on ne va pas craindre, car tu es avec moi. C'est très important que l'on sache ces choses. Lorsque nous sommes à Jérusalem, nous sommes protégés. Regardez le verset 14 du psaume 91. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Vous voyez?
Il m'invoquera et je lui répondrai.
Amen.
Je serai avec lui dans la détresse.
Amen.
Je le délivrerai et je le glorifierai.
Quelle glorieuse promesse. Des promesses merveilleuses pour ceux qui restent à Jérusalem.
Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.
Amen.
C'est pour ceux et celles qui sont à Jérusalem.
Oui, je le ferai voir mon salut. Ce salut, ça fait aussi allusion à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour ceux-là qui aiment Dieu. Ils vont vivre la délivrance de Dieu d'abord sur la terre. Ils vont être protégés d'abord sur la terre parce qu'ils connaissent son nom. Son nom, c'est aussi sa parole. Quand tu connais la parole de Dieu, tu es protégé. Ça va d'abord t'apaiser devant les problèmes. Ça va te consoler, te fortifier devant toutes les situations qui peuvent arriver. Tu vas invoquer Dieu, Dieu va te répondre. Toutes ces paroles sont au bénéfice de qui? De celui qui reste à Jérusalem. Donc, nous avons tout à fait raison de dire que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire celui qui reste à Jérusalem, est protégé. Il est gardé. Et cela a été prouvé dans la Bible lorsque nous regardons la vie de tous les hommes de Dieu qui se sont attachés à Dieu. Tous les enfants de Dieu qui ont aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, ils ont vu la protection de Dieu. C'est vrai, ils se sont retrouvés des fois dans des situations telles qu'ils se disaient « Est-ce que je vais m'en sortir ?» Mais ils ont vu la protection de Dieu, ils se sont mis à genoux, ils ont loué Dieu. Ils l'ont loué. Là, par exemple, nous avons lu le psaume de David. Voyons par exemple ce qui est arrivé à Abraham. Au livre de Genèse, chapitre 20, je vais lire le premier verset. Abraham s'est retrouvé dans une ville, à Guérar. Je lis le texte, je vais lire le premier au huitième verset. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Ouais. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? » Si je peux me limiter là, je vois d'abord un homme de Dieu qui se retrouve dans une situation de faiblesse, si je peux le dire, parce qu'il était dans un pays étranger, on pique sa femme, et peut-être qu'il ne savait pas quoi faire, mais Dieu déjà était intervenu. Il vient chez la personne qui a piqué sa femme, il dit, tu vas mourir. Vous voyez? En fait, des fois, si je peux me mettre à la place d'Abraham, peut-être Dieu n'a rien dit à Abraham quand on a piqué sa femme. Peut-être il a commencé à trembler, à dire, ah, je ne sais pas ce qui va se faire, je ne sais pas. Mais Dieu déjà avait pris le contrôle de la chose.
Il est intervenu.
Il est intervenu en songe pour dire, tu vas mourir. Menacer la personne, tu vas mourir. C'est ce que Dieu fait pour ceux qui restent à Jérusalem. ils menacent leurs ennemis. C'est un peu identique au texte qui parle de la dîme. Hein. Quand tu donnes la dîme, je menacerai celui qui dévore. Exactement. Dieu, il menace aussi. Il menace aussi nos ennemis. Il menace aussi. Et dans ce texte de Malachie, quand on dit « je menacerai ceux qui dévorent », mais quand Dieu dit « je menacerai ceux qui dévorent », effectivement, il y a des dévoreurs qui sont spécialistes à dévorer. Il lui dit « je menacerai celui qui dévore ». Il est venu menacer Abimelech. Il dit « Abimelech, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. » Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Oui, Dieu, il a empêché à cet homme de faire quelque chose qui pouvait faire très mal à Abraham, de voir que voilà ma femme, on l'a enlevée, on l'a violée. Si je peux me mettre à la place de toutes ces personnes dont leurs femmes ont été violées, ça fait mal. Mais ça allait arriver ce jour-là à Abraham et Dieu a empêché ça. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'était l'ami de Dieu.
L'ami de Dieu, le serviteur de Dieu.
Oui, l'ami de Dieu. Si nous sommes les amis de Dieu, Dieu va nous protéger.
Si nous restons citoyens de Jérusalem, oui. Dieu va nous protéger.
C'est comme ça. Il nous protégera, il nous gardera, il gardera même ce qui est à nous. Parce que nous sommes ses amis. Et Jésus-Christ a dit quoi, parlant des amis? Je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais vous, et vous connaissez. Dieu, Jésus n'a pas caché à ses disciples des choses précieuses, parce qu'ils étaient ses amis. Et c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande de rester à Jérusalem.
Jésus dit dans Matthieu 28, on peut simplement lire le verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec les disciples tous les jours de leur vie, tous ces disciples qui font la volonté de Dieu, tous ces disciples qui restent à Jérusalem, qui est une image du royaume de Dieu. Tous ceux et toutes celles qui restent dans le royaume de Dieu, qui respectent les principes du royaume de Dieu, qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la crainte de Dieu, sont des hommes et des femmes qui demeurent à Jérusalem. Et Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. Et lorsqu'il dit ça, il sait très bien qu'il y aura des moments difficiles, qu'il y aura des moments d'obscurité, il y aura des nuits. Parce que quand on a l'image de la nuit dans la Bible, c'est aussi l'image des ténèbres, le moment les plus difficiles de la vie. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous, je vais vous protéger, je vais vous nourrir, je vais vous vêtir, je vais vous guérir, je vais vous restaurer.
Je suis avec vous.
Je suis avec vous.
Ceci me fait penser à ce que Jean a vu dans Apocalypse chapitre 2. Il a vu Jésus et c'est lui qui...
Apocalypse 2.
Verset 1. Il a vu Jésus qui n'était pas statique, mais qui était en mouvement. Et il marchait où? Au milieu de cette chandelier d'or. Les 6 chandeliers d'or, il a aussi expliqué dans le dernier verset du chapitre 1er, Apocalypse 1, 20. Les chandeliers, c'est quoi? Pour aller plus simple. Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. En d'autres termes, Jésus marchait au milieu de 7 églises. Pourquoi il marchait au milieu de 7 églises? C'était pour dire, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'était juste ça. Il est avec nous tous les jours. Nous qui? Nous qui restons à Jérusalem.
Nous qui restons à Jérusalem.
Nous qui demeurons dans sa présence. Il est toujours là. Et il est en mouvement. Il n'est pas statique.
Il n'est pas statique.
Il agit. Il guérit. Il délivre. Il fait pleuvoir la bénédiction. Il écoute les prières. Il sauve. Il donne la paix. Il montre le chemin quand on est limité. Il dit, voilà, je t'instruirai. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Ça, c'est très important. Et très important de rester à Jérusalem. Parce que nous jouissons de sa protection. Nous jouissons de bienfaits du Seigneur parce que nous restons à Jérusalem. Là, c'était le cas d'Abraham qu'on a vu, où Dieu a menacé un roi païen qui voulait enfreindre, qui voulait toucher à la femme de Sarah. Mais il y a beaucoup d'exemples de ce genre.
Qui voulait toucher la femme d'Abraham.
D'Abraham, excusez-moi. Mais prenons encore un autre exemple. Nombre 22, 12, cette fois-ci, c'est Israël. Ils sont sortis d'Égypte et ils sont arrivés sur les plaines de Moab. Arrivés là, ils se sont arrêtés. Et il y a un roi, le roi de Moab, qui décide de maudire Israël, parce que pour lui, il considérait que c'était un peuple nombreux, et avec les troupeaux qu'ils avaient amenés, ils allaient sûrement brouter toutes les herbes, et ça allait être dangereux, ça allait peut-être déranger. Il a décidé d'appeler un devin, qui était quand même un véritable devin, pour maudire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne savait rien. Ils étaient là, tranquilles. Et lorsqu'ils arrivent, regardez ce que Dieu dit à Balaam, au verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Mais où était, en fait, si on peut se mettre à la place du peuple d'Israël, pendant que Dieu disait ça à Balaam, est-ce que le peuple de Dieu savait ça? Ils
ne
savaient rien.
Eux, ils sont dans un désert, oui. Ils ont des difficultés, oui. Ils savent qu'un peuple ne veut pas d'eux sur leur terre, mm-hmm. Alors que Dieu dit, ils sont bénis.
Oui.
Eux, ils se voient, non, mais on n'a pas de chance, finalement, tout le monde ne nous aime pas, finalement, c'est tout le monde qui nous déteste. Mais Dieu dit, ce sont des gens bénis.
Voilà, vous voyez que Dieu, il ne voit pas les choses comme nous on voit.
Tout à fait.
Eux, ils ne se voyaient pas être bénis, ils étaient au désert. Ils avaient besoin de retourner. Il y avait des murmures, d'autres disaient, en tout cas en Égypte, on mangeait des melons, on mangeait ceci, cela. Ici, il n'y a que la manne, seulement la manne. Mais Dieu, il dit, c'est un peuple béni, tu ne vas pas toucher ce peuple. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reste en communion avec Dieu, lorsqu'on choisit d'être le peuple de Dieu, malgré les réalités que l'on peut traverser pour Dieu, nous sommes à Jérusalem, c'est-à-dire nous sommes placés au lieu le plus élevé que Jéricho. Il faut y rester. Et lorsqu'on est à Jérusalem, lorsqu'on choisit de rester le plus élevé que Jéricho, c'est-à-dire Jérusalem, Dieu va menacer ceux qui viennent nous maudire. Cet exemple est pratique jusqu'à ces jours, parce que Satan maudit les gens.
Tout à fait.
Il les maudit comment? Pas seulement par des paroles pour dire... Ça, c'est vrai, des paroles pour dire vous n'allez pas, qu'ils ne réussissent pas, des incantations et tout ça, c'est vrai. Mais l'ennemi maudit aussi par des faux enseignements. Quand on voit les faux enseignements, on voit aussi ce qui se vit dans notre société.
Les faux raisonnements.
Quand tu regardes la télé, tu vois la
tout
mauvaise
plein façon, de mensonges.
Voilà, toutes ces abominations qui sont véhiculées à la télé. Tu peux être tenté à faire ça. Ça, c'est déjà en pratiquant ces choses, tu acceptes en fait la malédiction. Parce que quand tu pêches, tu acceptes la malédiction. Aujourd'hui, l'ennemi cherche à maudire le peuple de Dieu. Mais Dieu dit, tu ne vas pas le faire. Les sorciers, les occultistes qui veulent, qui attaquent, qui combattent, Dieu dit, tu ne vas pas maudire. Parce que ce peuple est béni. Il y a un texte que j'aime bien où le Seigneur dit que celui qui vous touche, il touche à la prunelle de mon œil. Dieu veille beaucoup sur ses enfants, sur son peuple à lui. Ça, c'est très important. Et ce peuple-là doit demeurer à Jérusalem pour vivre ces choses. Et j'ai beaucoup aimé ce commentaire que tu as ajouté pour dire, quand on voit l'attitude des Israélites, ils étaient là, au désert, mais pour eux, Dieu, on dirait, les avait oubliés, mais pourtant, ils combattaient pour eux. La Bible dit, Dieu, il fait au-delà
de ce que nous pensons et demandons.
Oui. Pour voir ce que Dieu fait pour nous. En tout cas, on parlera plus beaucoup.
Psaume 91 ou 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui reste dans la présence de Dieu repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui reste à Jérusalem, qui est l'image de l'Église de Jésus-Christ, celui qui reste dans la présence de Christ, celui qui reste dans l'amour de Dieu, reste sous la protection de Dieu.
Amen.
C'est l'exemple qu'on a dit. un cafard, ça peut être, bon, prenons, c'est une manière de parler, un cafard dans une bouteille. La bouteille protège ce cafard contre des agressions extérieures. Mais dès l'instant où ce petit insecte, qui ne peut pas se défendre tout seul, sort de cette bouteille, elle est à la merci de l'ennemi. Et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur qui a quitté Jérusalem pour Jéricho. Il s'est retrouvé entre les mains des brigands, qui l'ont dépouillé, qui l'ont tabassé, qui l'ont laissé à demi-mort. Mon frère, ma sœur, au moment où vous êtes en train d'écouter ce message, Dieu est en train de vous parler pour vous dire, une vie de péché, une vie de débauche, une vie de rébellion, une vie d'homosexualité, de lesbinage, de meurtre, d'avortement, est une vie de rébellion contre Dieu. C'est l'image même que vous sortez de Jérusalem pour Jéricho. Et dès qu'on sort de Jérusalem, on n'est plus sous l'abri du Très-Haut. On n'est plus sous l'ombre du Tout-Puissant. Dieu n'est plus votre refuge. Dieu n'est plus votre retraite. Dieu n'est plus votre bouclier. Dieu n'est plus votre protecteur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que vous quittiez Jéricho pour Jérusalem.
Amen.
Dieu veut que vous quittiez le monde pour le royaume de Dieu.
Amen.
Dieu veut que vous quittiez Satan pour Jésus-Christ. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit simplement de l'accepter dans votre vie en faisant cette courte prière avec nous. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. J'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message. J'ai quitté Jérusalem pour Jéricho. Je te demande pardon. Purifie-moi avec ton sang. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je fais maintenant le chemin inverse. Je quitte Jéricho pour Jérusalem.
Amen.
Par la foi en Jésus-Christ. Je quitte ce monde pour le royaume de Christ par la foi en Jésus-Christ.
Amen.
Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain, avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous assiste et vous bénisse.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.